La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La voix de l'emploi. Avec le soutien de Grenoble Alpes Métropole. Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 passé sur News FM et vous écoutez La Voix de l'Emploi. Alors que le handicap fait partie aujourd'hui des 25 critères de discrimination établis par la loi, il n'est toujours pas évident pour une personne en situation de handicap de trouver un travail adapté, tout comme ce n'est pas forcément facile pour une entreprise de proposer un emploi adapté. L'emploi face au handicap, c'est le thème de notre discussion de ce jour. Avec nos trois invités, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Éric Julot, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, vous êtes directeur de l'association OE Prométhée Isère, une association qui accompagne les personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel.
Je suis directeur adjoint, si vous me permettez de
rectifier. Oui, tout à fait. Et donc à vos côtés, Pierre Pélissier, bonjour. Vous êtes président d'une autre structure associative ouverte aux personnes en situation de handicap. Il s'agit de l'APAGE Isère, donc l'APAGE étant les initiales de Association pour adultes et jeunes handicapés. C'est une fédération, il y a des APAGE sur tout le territoire national.
Il y a des APAGE dans chacun des départements, avec des associations plus ou moins importantes. Disons que l'APAGE de l'Isère est dans le top 10 des associations nationales, hein, vu aussi la taille du département, c'est tout à fait normal. Voilà, avec de très grosses associations.
On va y revenir, voilà, vous allez pouvoir nous présenter un peu plus amplement l'APAGE. Et notre dernier invité, c'est Mathieu Boutaz. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Responsable du pôle emploi de Fontaine.
Exactement.
Donc vous allez venir nous apporter un éclairage un peu plus sur ce marché de l'emploi avec le public des personnes en situation de handicap. Alors on commence par la présentation de vos deux structures associatives. Messieurs, on va continuer puisque Pierre Pélissier, vous aviez commencé. L'APAGE, donc quels sont les champs d'intervention plus précis? Parce que ce n'est pas que l'emploi pour les personnes handicapées, vous intervenez sur tous les domaines de la vie de ce public.
Alors, APAGE, effectivement, tout public, tout handicap et tout âge. C'est très simple, avec des interventions auprès des enfants très jeunes, même bébés, hein, puisque sur deux secteurs du département, nous avons un pôle, ce qu'on appelle un pôle de bébés vulnérables, c'est-à-dire qui s'adresse aux familles ayant des enfants en très bas âge et en difficulté, ou où l'on suppose être en difficulté. Ensuite, dans le domaine de l'école, avec IME, CESAD. Ensuite, dans le domaine du travail et de l'hébergement. Voilà, donc tous les âges de la vie avec différents types de handicap, essentiellement du handicap intellectuel.
L'APAGE Isère, c'est combien de personnes d'abord? Combien d'employés?
Alors, c'est 310 employés, c'est une quinzaine de services et d'établissements, c'est 750 personnes, enfants et adultes accompagnés.
Et combien, vous venez justement de donner le chiffre, vous couvrez l'ensemble du département?
Alors, avec des zones plus couvertes, non, pas l'ensemble du département, non.
Donc vous êtes plus présent sur
quelle zone? On n'a pas cette prétention, loin de là, avec une forte prédominance sur l'agglomération grenobloise et puis sur tout le secteur de Bièvre-Valoire, ainsi que Bourgoin et Villefontaine. Voilà, donc des pôles tout à fait importants au niveau, on parlera de l'emploi en particulier, des pôles importants au niveau de l'emploi, surtout du côté de Villefontaine.
Parlons maintenant un petit peu plus de OE Prométhée, Éric Julot. Il y a plusieurs associations hein, qui sont regroupées. Il n'y a pas que OE Prométhée, il y a aussi Cap Emploi 38, il y a OE Epsilon, OE Potentiel, OE PLIE. Donc c'est un regroupement de structures qui forment donc un tout.
Alors je conçois qu'on puisse avoir un petit peu du mal à s'y retrouver. OE Prométhée est l'association porteuse, créée en 1983, qui a pour vocation l'insertion et le maintien des personnes en situation de handicap. Maintenant, OE Prométhée, depuis 2000, est porteur du label de service public Cap Emploi, qui lui confère donc, comme je le dis, une mission de service public au même titre que Pôle Emploi ou les missions locales, par exemple. OE Prométhée, au fil du temps, a créé des missions particulières, des missions complémentaires à la mission Cap Emploi. Par exemple, OE Epsilon s'occupe de personnes en situation de handicap psychique et évalue la faisabilité d'un parcours vers le milieu ordinaire de personnes ayant ce type de handicap. Par exemple, OE Potentiel, là également, est une mission complémentaire à l'intérieur d'OE qui a pour objectif de favoriser le recrutement en alternance. Autre exemple, OE Pli s'adresse à des personnes toujours en situation de handicap et qui sont également en situation de difficulté sociale. Voilà, nous avons un certain nombre de missions complémentaires de ce type-là. Il y a également encore une mission que j'allais omettre, c'est la mission dite de transfert de compétences qui permet de mettre en œuvre des bilans de compétences, enfin des bilans de potentiel et d'orientation spécialisés, spécifiques au handicap.
Alors, on a cité donc l'une de ces structures OEPLIE ou PLI, plus simplement. Donc, ce sont les initiales pour plan local d'insertion et de l'emploi. Donc, là, on comprend que vous travaillez forcément en accord avec le département, puisque le PLIE,
le PLIE est une émanation de la communauté d'agglomération de la métro et non du département.
D'accord. Et je ne suis plus à jour alors.
tout simplement. Et à ce titre, effectivement, nous avons un lien étroit sur cette mission avec nos collègues du PLIE, justement, de la métro.
Eh ben on va y revenir juste après pour aborder la question des partenaires, les structures avec lesquelles, que ce soit la page ou OE Prométhée, avec lesquelles vous travaillez régulièrement. La question de l'emploi, donc on l'a compris, OE Prométhée, c'est votre spécificité dans ce regroupement de plusieurs structures. Pour la page, le public que vous recevez, que vous accompagnez, l'emploi, ça a quelle priorité pour eux?
Alors l'emploi, c'est la priorité, je dirais, parce que de toute façon, à partir du moment où on parle des enfants en IME ou en IMPRO, ça veut dire qu'on va les faire évoluer vers un emploi, hein, puisque le but même d'une vie et d'une formation, c'est le travail, donc c'est l'emploi. Hein. Donc pour nous, c'est tout à fait prioritaire. Et l'emploi dans le milieu ordinaire, c'est aussi une des vocations de la page, même si c'est au sein des ESAT. Je rappellerai simplement qu'il y a bientôt 30 ans qu'on a ouvert notre premier restaurant ouvert au grand public. Hein, c'était à Beaurepaire. Et qu'à l'heure actuelle, c'est une des spécialités à Page où effectivement on essaye de faire travailler le maximum les personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire, même s'ils dépendent d'un ESAT. On reparlera de l'ESAT de Villefontaine.
Il n'y a juste plus. Une précision pour nos auditeurs, ESAT, pour les initiales pour
établissement et service d'aide par le travail. C'est bien d'aide, d'accompagnement hein, par le travail. Donc l'ESAT de Villefontaine, par exemple, petit ESAT, 60 places agréées, n'a plus d'atelier. Il n'y a plus de personnes à l'intérieur qui travaillent quelquefois deux ou trois pour un petit service à rendre à une entreprise. Mais tout le monde est à l'extérieur, tout le monde est dans le milieu ordinaire. Voilà, par exemple, donc notre vocation au niveau de l'emploi, c'est effectivement, depuis toujours, remettre les gens dans le milieu ordinaire. Et on a eu d'ailleurs de très longues collaborations avec OE Prométhée à ce niveau-là, et on a toute une expérience, en particulier à partir de cet ESAT de Villefontaine, avec OE Prométhée, sur la mise en milieu ordinaire des travailleurs d'ESAT.
Alors, donc, forcément, un travail collaboratif entre associations. Et alors, au niveau des partenaires, donc, on parlait de la métro à travers leur dispositif de plan local d'insertion et d'emploi. Quels sont les autres partenaires réguliers ou historiques avec lesquels vous travaillez sur la question de l'emploi?
Cela dépend si on parle des partenaires institutionnels, des partenaires opérationnels. Nos partenaires institutionnels, avant tout, sont Pôle emploi, sont la GFIP, l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées, qui collecte les fonds des entreprises qui n'ont pas leur quota de travailleurs handicapés. Le FIPHFP, qui est l'homologue de l'AGFIP pour la fonction publique, et puis bien sûr, un partenaire institutionnel incontournable, c'est l'État.
Et le milieu de l'entreprise ?
Alors, on parle là des partenaires opérationnels, les entreprises avant tout, bien sûr, puisque ce sont nos partenaires de l'emploi. Et je ferai un point particulier sur les entreprises adaptées, notamment, et le secteur de l'insertion par l'activité économique, qui permettent à une bonne partie du public que nous recevons de trouver des débouchés sur des postes adaptés en fonction de leur handicap. Et puis, bien évidemment, l'ensemble des entreprises du milieu ordinaire de travail, puisque OE Prométhée a avant tout vocation à favoriser l'emploi en milieu ordinaire de travail.
On reviendra donc sur la question des entreprises un peu plus loin dans l'émission. Pierre Pélissier, donc vous rejoignez Eric Julot sur la question des partenaires.
Les partenaires sont bien sûr les mêmes. Avec les entreprises essentiellement, parce que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travail. Étant entendu que, comme je le disais, une des spécialités de la page, c'est d'avoir aussi beaucoup de production propre, que ce soit au niveau de la restauration, par exemple, où là, on gère des restaurants lambda, comme tout un chacun, ou que ce soit des fabrications propres aussi, y compris industrielles, comme on peut produire à Beaurepaire ou ailleurs, au niveau du cartonnage, au niveau d'un certain nombre de produits, et là où on a effectivement des commandes venant véritablement d'entreprises, et on fait un véritable commerce avec des entreprises, avec des gros groupes, y compris avec des gros groupes. Donc, bien sûr, en France, le travail, c'est les entreprises. Et heureusement qu'on a une collaboration au quotidien avec les entreprises. Quand je disais Villefontaine, il n'y a plus personne en atelier, c'est parce qu'ils sont tous dans des entreprises et qu'on a des entreprises qui jouent le jeu. Alors, qui jouent le jeu à la fois peut-être pour ne pas payer les 6% à la GFIP, mais aussi parce que de plus en plus d'entreprises croient véritablement à la possibilité d'employer des personnes en situation de handicap. Pas toujours d'en avoir la responsabilité, c'est ce qui permet de donner du travail aux ESAT, parce que c'est peut-être compliqué, elles ne sont pas formées, et on en reparlera, il faut aussi un accompagnement particulier pour ces personnes, mais de toute façon, beaucoup ont maintenant cet état d'esprit, que ce soit les très grandes entreprises qui ont tout un service dédié à ça, ou que ce soit les PME qui, de plus en plus, sur le local, sur le territoire, se disent qu'il y a aussi ces personnes qui demandent du travail et qui sont reconnues travailleurs handicapés, RQTH. Alors après, cela, pour l'instant, n'empêche pas que le taux du chômage de la personne en situation de handicap est très largement le double du taux de chômage moyen en France.
Voilà, effectivement, vous faites la transition à ma place, Pierre, puisque j'allais me tourner vers Mathieu Boutaz. Par rapport au Pôle emploi, donc on estime à un peu plus, alors les chiffres, j'en ai trouvé, mais peut-être que ce ne sont pas les mêmes que ceux auxquels vous avez accès, à un peu plus de 500 000 en France, le nombre de personnes en situation de handicap inscrites dans une agence Pôle emploi. Pierre Pélissier citait effectivement le taux de chômage qui est en général autour du double, donc ça tourne à 19-20%. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap. Alors, du côté de Pôle emploi, comment est-ce que vous gérez ce public un peu particulier ? Est-ce que, d'abord, est-ce que c'est un public particulier pour vous ? Alors, ou est-ce que c'est comme d'autres demandeurs d'emploi ?
Alors, c'est évidemment un public particulier parce qu'il est, comme vous l'avez dit en introduction, souvent discriminé à l'embauche. C'est aussi un public sur lequel les efforts des conseillers Pôle emploi se font beaucoup plus que sur peut-être d'autres publics parce qu'il faut effectivement les accompagner. Et l'emploi, comme le disait très justement tout à l'heure mon voisin, est pour eux d'importance capitale. Donc, quelques chiffres très rapidement parce que je crois que ça montre aussi l'importance et la problématique des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Ils sont effectivement 19% à se retrouver demandeurs d'emploi, contre à peu près 8-8,5% au niveau national pour la population sans handicap. mais c'est également des demandeurs d'emploi qui sont impactés par un chômage de longue durée, voire de très longue durée. Hein. Quand je dis très longue durée, c'est souvent plus de 24 mois d'inscription à Pôle emploi. Donc là, c'est d'autant plus difficile hein, de retrouver une activité. Et également, il faut savoir que 50% des demandeurs d'emploi qui ont un handicap ont plus de 50 ans. Donc là aussi, c'est pas tout le temps évident. Heureusement qu'on a nos partenaires, OE Prométhée, les associations qui font également beaucoup de travail là-dessus. Nous, en interne, on a des conseillers dédiés aux demandeurs d'emploi avec une reconnaissance de travailleurs handicapés. Ils les accompagnent dans les recrutements. Ils les accompagnent également dans, j'ai envie de dire, la création du CV, de la lettre de motivation classiquement pour tous les demandeurs d'emploi. Le fait d'être visible également sur son espace personnel, sur son profil de demandeur d'emploi. Et je reprendrai également ce qui a été dit précédemment, c'est que je pense que de plus en plus, les employeurs qui ont un rôle primordial ont, en tout cas, voient l'intérêt d'embaucher une personne avec une reconnaissance de travailleur handicapé, pas que financière d'ailleurs, c'est très juste, mais aussi dans des soucis de fédéralisme d'une équipe, de compétences également, parce que beaucoup de travailleurs handicapés ont beaucoup de compétences, hein, ils ont, là-dessus il n'y a aucun souci. Voilà, je pense qu'on est plutôt sur un changement de vision de la part de l'employeur, c'est pas toujours facile, mais en tout cas on est plus là-dessus, c'est plus facile pour les conseillers en tout cas d'accompagner un demandeur d'emploi avec une problématique d'handicap qu'à une certaine époque, c'est sûr.
Alors, il existe une loi, la loi du 11 février 2005, qui d'ailleurs n'est pas une loi qui a été créée comme ça du jour au lendemain, elle vient elle-même hein, d'une précédente loi de 97. Donc c'est une loi qui régit, qui définit précisément les droits des personnes handicapées, et notamment dans la question de l'égalité dans l'accès au travail et l'égalité au travail lui-même. Cette loi, est-ce que, comment quel regard vous portez là-dessus ? Est-ce que elle suffit amplement ? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent et qu'il faudrait donc revoir un peu ?
Alors, si je peux me permettre, d'abord, je voudrais saluer la loi de 2005. Alors, pourquoi saluer cette grande loi ? Tout simplement parce qu'elle a été déjà très longuement préparée par le gouvernement de l'époque. Hein. N'oublions pas, c'était Jacques Chirac avec les ministères qu'il avait, Xavier Bertrand à la Santé qui chapeautait ça, Valérie Létard, secrétaire d'État au handicap dans un premier temps, hein, puis c'est pas elle qui l'a porté jusqu'au bout, mais c'est elle qui a commencé. Ensuite, la secrétaire d'État qui a été chargée de ça a fait un travail absolument remarquable. Mais c'est une loi qui n'est pas arrivée, comme vous le disiez, qui n'est pas arrivée de but en blanc, hein, qui a été travaillée au niveau national, dans une immense concertation avec toutes les associations représentant le handicap, et je dis bien toutes les associations, et ce pendant, grosso modo, pendant 2 ans. Hein. Donc, contrairement à beaucoup de lois où on se dit au 1er janvier, on va sortir une grande loi et au 25 janvier, on la présente au Parlement, et elle est adoptée avec une unanimité des concertantes, non, la loi de 2005, et c'est pour ça que ça a été une très grande loi. Hein. Cela dit, beaucoup ont tenté quand même de la détricoter en partie. Hein. On va reprendre l'histoire de l'accessibilité qui a conduit à un véritable tollé il y a 2 ou 3 ans, où on a dit, oui, mais l'accessibilité à 100%, c'est pas possible dans un pays comme le nôtre, donc on va ramener les constructions à 5%, puis à 10%, puis à 20% d'accessibles, et puis qu'à partir du 3e étage, et puis peut-être du 2e, on ne sait pas, hein, ce qui, là, reste discriminant, parce que ça veut dire qu'une personne en situation de handicap, elle n'a pas le choix, où elle habite le rez-de-chaussée, où elle ne peut même pas choisir où son quartier, ou son appartement. Donc, oui, il y a eu des attaques contre cette très grande loi. Cette loi, comme toutes les lois, n'était pas parfaite, mais ça a été un immense espoir au niveau des associations qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Parce qu'elle a été très complète, tout de même. Dans le moment où elle a été promulguée, elle a été, c'était la loi du moment. Hein, et avec... toujours avec des insuffisances, avec des possibilités d'améliorer. Malheureusement, on doit dire qu'on est plutôt allé en sens inverse. On a plutôt cherché, chaque fois qu'il y avait un petit quelque chose qu'on pouvait grignoter, à grignoter.
Mais quand vous dites « on », c'est qui particulièrement ?
C'est les lobbies qui influencent nos décideurs politiques. Le lobby du bâtiment, entre autres, par rapport, on sait pertinemment que c'est le lobby du bâtiment qui a créé ce retour en arrière au niveau de l'accessibilité du bâti neuf.
D'accord. Éric Jullot aussi, donc,
alors, par rapport à la loi. Effectivement, cette loi est une grande loi, je vous rejoins tout à fait. Elle mérite effectivement peut-être encore quelques améliorations. C'est notamment dans ce cadre-là que la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui réforme en profondeur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, cette loi, elle prévoit notamment qu'à partir du 1er janvier 2020, il va y avoir davantage d'incitations à l'emploi direct, puisque la part des travailleurs handicapés, effectivement, dans l'entreprise, sera mieux prise en compte. Ensuite, il y aura également quelque chose qui va augmenter de façon mécanique le taux d'emploi dans les entreprises, qui, notamment celles qui sont constituées d'établissements inférieurs à 20 personnes, qui jusqu'à présent, ces entreprises constituées de plusieurs établissements n'étaient pas soumises à l'obligation d'emploi. Maintenant, cette obligation d'emploi, le calcul se fera sur l'ensemble de l'effectif global. Ça va changer la donne. La sous-traitance auprès du secteur adapté ou protégé va être calculée différemment, mais il y aura toujours une possibilité de réduire le montant de la contribution par le biais de la sous-traitance vis-à-vis du milieu adapté ou protégé. Il y aura encore des choses qui vont améliorer peut-être le traitement de administratif de la reconnaissance travailleur handicapé. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pourra être attribuée à vie pour les personnes dont le handicap est jugé irréversible. Et puis, il y aura également un délai pour éviter les ruptures de droit lors du renouvellement de la reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses, je ne les ai pas toutes décrites ici, mais qui apportent une amélioration à la loi de 2005, de mon point de vue.
Mathieu, peut-être juste quelques mots par rapport à ce que la loi a changé au niveau du rôle, de la place de Pôle emploi, rapidement, puis on va faire une
alors, ce qui vient d'être dit, là, c'est effectivement très important, parce que dans les dossiers des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, on a souvent des problématiques administratives, et notamment, effectivement, le renouvellement de la reconnaissance de travailleurs handicapés qui se faisait avec des délais plus ou moins longs, voire très très longs. Et donc, ça pouvait poser des problèmes pour les demandeurs d'emploi qui, quand ils ont la reconnaissance de travailleur handicapé, bénéficient évidemment d'une obligation d'emploi plus importante par rapport à la loi. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. Tout ce qui peut améliorer l'administratif, nous, on est très, très preneurs. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien et ce n'est pas tout le temps évident. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne chose pour tout le monde.
On va faire une courte pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de La Voix de l'Emploi, consacrée aujourd'hui à emploi et handicap. Et notamment, dans la deuxième partie, on va se concentrer un peu plus sur les droits et devoirs à la fois des demandeurs handicapés, mais aussi des entreprises. À tout de suite.
Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd, qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux, qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal, mon handicap. c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas de ma faute, pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire, c'est pas ce que je peux pas dire. Mon handicap, c'est pas mes doigts qui n'écrivent plus, qui touchent pas. C'est pas ma faim ni mon salaire, et pas non plus de quoi j'ai l'air. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas l'envie d'avoir un jour voulu ta vie. Et ça n'est surtout pas mon monde qui ne sera jamais ton monde. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 mal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal, qui me fait mal.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. Vous écoutez La Voix de l'Emploi sur News FM et nous parlons aujourd'hui de l'emploi face au handicap. Nos invités sont Éric Julot de l'association Eau et Prométhée, Pierre Pélissier de l'association Apage 38 et Mathieu Boutaz du pôle emploi de Fontaine. Alors, les personnes en situation de handicap ont des droits en matière d'accès à l'emploi. Est-ce que la question de leurs devoirs, est-ce qu'il y a des choses différentes des salariés non handicapés? Est-ce que ça change ou c'est exactement les mêmes devoirs?
Non, il n'y a rien de particulier. Un travailleur handicapé est un travailleur avant tout et c'est bien qu'il en soit ainsi. Il n'y a pas plus de devoirs concernant une personne handicapée qu'un salarié lambda.
Alors, on sait que vous vouliez peut-être.
Non, c'est exactement la même chose, effectivement, pour Pôle emploi. Il est demandeur d'emploi, ils ont des droits et des devoirs. Ce sont les mêmes pour tout le monde.
Donc, on sait que le handicap, ce n'est pas simplement le handicap. Il y a des handicaps, il y a différents degrés. Donc, il y a des handicaps légers, d'autres qui sont beaucoup plus graves, plus sérieux. Et du coup, bah, forcément, lorsqu'on pense à un emploi, à un travail adapté, il faut tenir compte de ce degré-là. Comment ça se met en place, ce genre de choses? Les entreprises, par exemple, quand elles réfléchissent à remplir leurs obligations, on a parlé de la loi qui oblige les entreprises, et vous l'avez rappelé, Éric Julot, qu'avant, c'était les entreprises de plus de 20 salariés. Aujourd'hui, c'est toutes les entreprises d'avoir une part d'employés.
En tous les cas, toutes les entreprises de moins de 20, toutes les entreprises, et dont celles de moins de 20, seront tenues de déclarer leurs effectifs travailleurs handicapés, oui.
Alors, comment une entreprise... Alors, c'est dommage, on n'a pas d'un invité qui représente le monde de l'entreprise qui aurait peut-être pu nous apporter son témoignage, mais je pense que vous tous les trois, vous connaissez suffisamment le sujet. Une entreprise qui envisage de s'ouvrir à des candidats en situation de handicap, comment ils font pour se dire on va choisir tel poste qui peut-être sera plus adapté? Par exemple, si on prend l'exemple de News FM, on a des gens qui travaillent ici derrière la console sur de la technique. On a des personnes qui sont au micro, on a des personnes qui vont à l'extérieur pour faire des interviews. On a de l'administratif, voilà. Donc, comment une entreprise aborde cette question de s'ouvrir?
Alors, au niveau de... handicapé. Quand on a des personnes qui travaillent en ESAT comme à la page, la situation est pas tout à fait celle que vous décrivez. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des liens avec de très nombreuses entreprises et c'est l'accompagnement de la personne qui travaille, déjà, qui fait qu'on va, à un moment ou à un autre, poser les questions. Hein. Mais pas poser les questions uniquement à l'entreprise, poser les questions aussi à la personne. Parce que vous disiez tout à l'heure, quel droit, quel devoir. Le travailleur en situation de handicap est un citoyen, comme vous, comme moi, il a les mêmes droits, les mêmes devoirs, ça a déjà été dit, mais il n'a pas obligatoirement les mêmes besoins. Il a peut-être plus de besoins, et en particulier plus de besoins de formation encore que les autres, et plus de besoins de ce qu'on appelle l'accompagnement. Mais pas que lui, parce que l'entreprise aussi a besoin d'accompagnement. L'entreprise n'est pas au départ un établissement médico-social. L'entreprise est là pour produire, pour faire des bénéfices, pour faire du développement, etc. etc. Donc, seul, on ne peut pas demander à l'entreprise de tout faire et de tout savoir. Hein. L'accompagnement, ça existe. Alors, quand on prend justement des personnes qui ont travaillé longtemps en ESAT, qui ont fait preuve de leur qualité, de leurs possibilités. Mmh. Après, on reparlera de ce qu'on a appelé longtemps l'employabilité, hein, ce terme absolument barbare. Ces personnes-là, on se dit à un certain moment, et elles peuvent se le dire aussi, je resterai bien dans cette entreprise, ou j'irai bien travailler à tel endroit. Et ça se fait progressivement. Il faut du temps. En particulier quand on parle du handicap intellectuel. Le handicap purement physique, fauteuil, etc., etc., c'est quelquefois pas plus facile à régler, ça se règle d'une autre manière. Hein. C'est simplement accéder à la formation d'une équipe qui reçoit une personne handicapée intellectuelle ou la formation de cette personne même qui va travailler, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble et il faut prendre son temps. Il faut penser que du jour où on l'aura mis dans l'entreprise, il faudra des mois, voire peut-être des années à continuer à accompagner tout le monde. Il faudra aussi penser que le droit au retour existe. Et justement, il avait été prévu par la loi de 2005, ce droit au retour. Hein. Vous allez vous quitter un établissement de travail protégé, entreprise adaptée ou ESAT. Au bout d'un an, deux ans, trois ans, vous ne tenez pas en entreprise. Vous avez le droit au retour. On doit vous réserver une place. Il est prévu par la loi. Très compliqué à mettre en place, d'ailleurs. Très, très compliqué. Mais il existe. La loi l'a prévu. Hein. Et tout ça, c'est un travail, ce qu'on appelle un travail d'accompagnement des professionnels du médico-social, associatifs ou autres, hein, mais essentiellement associatifs, et de tous ces professionnels qui, d'abord, travaillent entre eux, avec les autres associations, en cherchant quelle est la meilleure formule, parce que chaque association a sa spécificité, d'autres sont plus portés vers la formation, vers l'accompagnement, etc. etc. Et c'est là où on se rend compte qu'on a des employeurs qui nous disent « Quand j'ai employé, allez, on va l'appeler Alain, après beaucoup d'hésitations, après beaucoup de formation, après avoir formé toute l'équipe qui devait l'entourer, on s'est rendu compte qu'en fonction de ses capacités, il fallait qu'on lui fabrique presque un poste. Mais lui fabriquer un poste, ça voulait dire qu'on pensait à notre organisation, qu'on repensait notre organisation interne de notre PME ou de notre atelier ou autre. Et on s'est rendu compte qu'en lui confiant les tâches qu'il était capable, après formation, d'accomplir parfaitement, eh bien on avait tous gagné et que l'entreprise, en embauchant quelqu'un de soi-disant handicapé, avait gagné en efficacité et en rentabilité. Tout simplement parce que ça nous avait obligés à complètement repenser nos processus, à complètement repenser notre façon de faire. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très, très important qu'il faut mettre à l'actif des entreprises qui nous donnent cette possibilité, parce que beaucoup sont très volontaires. Et pour beaucoup, ça se passe très bien et dans ces conditions-là. Il ne faut pas oublier, on a eu, et justement avec OE Prométhée, je le disais tout à l'heure, de très longues expériences. Je parle de l'EPMO dans les années 2000, je parle du PASMO après dans les années 2008.
Hein. Alors, oui, qu'est-ce que c'est, vous pouvez préciser?
Alors, EPMO, c'était PASMO. Emploi protégé en milieu ordinaire, qui était un système complètement dérogatoire par rapport aux règles de l'époque, qu'on avait mis en place justement à trois associations sur la région Rhône-Alpes. Et on s'est rendu compte que les entreprises qui jouaient le jeu à ce moment-là signaient des CDI à ces personnes. Et quand plus tard on est passé à la vitesse supérieure où l'État, justement, et c'est Valérie Létard à l'époque qui était secrétaire d'État, nous avait permis de mettre en place le PASMO, hein, qui était vraiment le passerelle vers le milieu ordinaire, ça nous avait été agréé dans quatre régions de France, hein, la Bretagne, Toulouse, Rhône-Alpes et la région parisienne. Hein. Eh bien, on était arrivé, effectivement, en l'espace de 36 mois, de sortir 190 personnes des ESAT, 85% en CDI, mais avec un accompagnement et avec la certitude que pour les entreprises qui jouaient le jeu, et elles étaient nombreuses, le droit de retour existait et que pendant au moins 3 ans, elles allaient être accompagnées et l'État débloquait une certaine somme pour qu'on puisse accompagner ces entreprises pendant 3 ans. Ça a donné des résultats exceptionnels.
Forcément, puisqu'il y a forcément des frais pour adapter l'accessibilité aux locaux ou ce genre de choses. Est-ce que les entreprises s'adressent à vous aussi, puisque vous, Pierre, vous parliez de l'accompagnement par des équipes médico-sociales, mais est-ce que des entreprises viennent s'adresser à vous, à vos associations ou à Pôle emploi pour dire, voilà, comment est-ce que je peux faire, moi, pour adapter un poste?
Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui rentrent dans la démarche dite inclusive, entreprise inclusive, et qui accompagnent les demandeurs d'emploi avec une reconnaissance de travailleur handicapé. C'est pas facile, je reprends ce qui a été dit, hein, ça prend du temps, énormément de temps, on n'est pas dans l'immédiateté. Et ce qui est vrai, c'est que, alors il n'y a pas d'employeur ici, mais à titre personnel, moi je travaille à Pôle emploi, donc je gère des agences, et quand on embauche des personnels avec une reconnaissance travailleur handicapé, déjà on est très surpris par leur envie de travailler en équipe, leur implication, et ça donne aussi à tous, moi j'ai envie de dire, ça améliore l'état d'esprit général. Très franchement, alors, j'ai peut-être eu beaucoup de chance de tomber sur des perles, entre parenthèses, mais en tout cas, voilà, c'est des personnes qui améliorent la condition, l'esprit d'équipe, etc., etc., qui sont compétents, qui sont au rendez-vous des objectifs et de tout ce qu'on leur demande. Et c'est vraiment... Ça. Par contre, évidemment, ça prend un peu plus de temps. Il faut accompagner ces personnes-là. C'est aussi un état d'esprit.
Rémi Julot,
alors, vous rajouter quelque chose? Oui, moi, j'allais dire que les entreprises recherchent, bien entendu, comme vous le disiez tout à l'heure, des compétences, des qualifications. Ces compétences, ces qualifications, elles peuvent être techniques, bien sûr, elles peuvent être aussi relationnelles. On trouve des compétences relationnelles extraordinaires chez des personnes, notamment en situation de handicap mental, hein, de handicap intellectuel, par exemple. Hein. Ces entreprises, effectivement, l'inclusion, l'insertion d'une personne en situation de handicap dans une équipe, améliore dans un certain nombre de cas la situation d'ensemble, soit parce que des aménagements sont réalisés qui profitent à tout le monde, des aménagements techniques, organisationnels, et l'amélioration peut aussi se jouer sur le plan de l'ambiance générale, comme vous le disiez. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que l'entreprise recherche avant tout des personnes et un certain nombre de qualifications techniques, relationnelles, et que les personnes en situation de handicap manquent cruellement de ce type de qualification, du type de formation. Et on a besoin, bien souvent, d'apporter de l'ingénierie de formation, de l'ingénierie de formation directe, de formation en alternance, de formation en validation des acquis de l'expérience. On a besoin aussi d'apporter aux personnes en situation de handicap des techniques propres de recherche d'emploi, comme par exemple savoir parler de son handicap et savoir se présenter à un employeur de cette façon.
Pierre, vous souhaitiez rajouter quelque chose?
Oui, la formation, ça vient d'être dit, de toute façon, il faudra même qu'on en parle un peu plus, et l'orientation aussi. On se rend compte qu'à l'heure actuelle, un grand nombre de, on va parler des jeunes, un grand nombre de jeunes sortent des services de l'éducation nationale avec très peu de formation, tout simplement parce qu'il y a des jeunes en situation de handicap qui sont inclus dans le système scolaire normal, et c'est très bien, et c'est indispensable, et c'est une belle réussite. Sauf qu'à 16 ans, voire 17, mais en général 16 ans, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Ils n'ont pas de véritable diplôme, ils n'ont pas de véritable formation, et il y a très peu de... Il y a très peu de débouchés qui sont prévus pour eux. À l'heure actuelle, il faut effectivement qu'on les accompagne, qu'on les aide à, ça vient d'être dit, à parler de leur handicap, à découvrir véritablement. Ils savent qu'ils sont handicapés, on leur l'a dit depuis longtemps. Ils sont dans des sections spéciales, etc., ils le savent. Mais à découvrir quels sont pas le pourquoi, mais le comment de leur futur en fonction de ce handicap. Et tout ça, c'est un apprentissage, c'est un apprentissage de la famille, c'est un apprentissage du jeune, et il va falloir les accompagner par des systèmes d'orientation. Alors, il y a un certain nombre d'établissements, ça a d'ailleurs été une des volontés de la ministre actuelle, de mettre en place dans chaque département des systèmes d'orientation ainsi prévus, en particulier pour ces jeunes. Ça avait été... une demande du recteur à une époque, c'est une demande de la ministre à l'heure actuelle, de mettre en place ces systèmes d'orientation. Hein. Il y en a d'installés dans chaque département à l'heure actuelle. Il y en a un dans l'Isère, c'est nous qui le gérons, hein, à Isatis, à Villefontaine. Alors pourquoi là-haut ? Parce que ça a toujours été la vocation de cet établissement de faire de l'inclusion le plus rapidement possible au niveau de la jeunesse. Et à l'heure actuelle, on se rend compte que sur un ESAT de 60 places, on a à l'heure actuelle 60% des entrants qui sont reconnus handicapés, mais pas RQTH, parce qu'ils sont jeunes, hein, et qu'ils sortent du système scolaire normal. On a 60% de ces jeunes qui sortent du système scolaire normal. Hein, voilà. Et qui sont là pour être orientés. Donc ils passent un certain nombre de mois, ça peut aller jusqu'à 3 ans. On parlait de temps, et il faut du temps pour ces jeunes. Hein. Ça peut aller jusqu'à 3 ans. Pour certains, ça va beaucoup plus vite. Et c'est un véritable service d'aide à l'orientation qui travaille, bien sûr, en lien avec tous les organismes de formation, avec les autres associations, avec les pôles emploi, etc., de manière à pouvoir dire à ces jeunes, quand tu sortiras d'ici, tu auras un choix éclairé. Hein, où tu auras pu faire des stages, tu auras pu... des stages en entreprise. Tu auras pu toucher un certain nombre de métiers qui te plaisent, qui t'intéressent, et tu pourras faire un choix éclairé en fonction de tes potentialités et puis effectivement du marché de l'emploi. Donc je crois que c'est extrêmement important. Cette notion de formation pour des jeunes de 18, 21, 22 ans qui sont sans rien pratiquement et d'accompagnement vers cette orientation très longue, souvent très longue, est absolument indispensable pour qu'on réussisse à véritablement faire de l'inclusion. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'inclusion sociale par le logement, etc., et on pourra y revenir. Je reprendrai un mot d'un de nos directeurs à Page, mais je crois que c'est un mot que tout le monde a à l'heure actuelle, c'est l'inclusion ne se décrète pas, ce n'est pas vrai. Hein. L'inclusion, que ce soit dans le monde scolaire ou dans le monde du travail, elle ne se décrète pas, elle se prépare, elle s'organise, et c'est la formation qui permettra d'en arriver là.
Éric Gelot.
Alors, M. Gouta soulignait à juste titre l'importance de l'orientation et de la formation des jeunes. L'orientation et la formation s'entendent tout au long de la vie. Vous rappeliez tout à l'heure, M. Pellissier, que 50% des personnes en situation de handicap demandeurs d'emploi ont plus de 50 ans. Or, pour une partie d'entre eux...
En fait, c'est l'inverse, oui. C'est M. Boutaz et M. Pellissier.
Mais c'est pas grave.
Oui, effectivement. Je vous prie de m'excuser. Et pour le coup, pour ces seniors en situation de handicap, il faut savoir que bien souvent, le handicap intervient en cours de carrière professionnelle. Et cet handicap nécessite alors de se poser des questions en termes de reconversion professionnelle. Alors, d'une part, au tout départ, de maintien dans l'emploi, si cela est possible, et nous avons un service à Cap Emploi qui est uniquement chargé du conseil en maintien dans l'emploi auprès des employeurs, des services de santé au travail et des personnes. Mais se pose ensuite, si le maintien dans l'emploi, dans l'entreprise n'est pas possible, se pose à ce moment-là la question de la reconversion professionnelle, de l'orientation à ce moment-là et de la formation. On a eu, pour l'anecdote, des personnes de plus de 50 ans qui ont réussi des parcours en alternance à Bac plus 2.
Alors on arrive en fin d'émission, mais oui, je vais vous laisser la parole, Mathieu, par rapport à la question de ce qu'il faut améliorer pour que l'inclusion soit davantage préparée, comme le disait Pierre Pélissier, hein, que ça ne soit pas décrété simplement comme ça. Il faut effectivement que les conditions soient idéales. Alors, je vous laisse la parole, Mathieu. Après, si Eric et Pierre, vous souhaitez rajouter quelque chose sur ce qu'on a dit, ça sera le mot de la fin. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut un peu améliorer, notamment du point de vue de Pôle emploi, sur la question des formations?
Alors, sur la question de la formation, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, donc, qui est porté donc, par le gouvernement et par Pôle emploi, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a différents publics cibles. Et parmi les publics cibles, évidemment, les demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés. C'est une priorité de nos actions, de leur proposer des formations. Donc j'en profite pour dire à nos éventuels auditeurs qui auraient des souhaits de formation, de qualification, etc., que c'est le moment, j'ai envie de dire, de passer dans vos agences Pôle emploi, puisque dans le cadre de ce plan, nous bénéficions d'un certain nombre de financements que quelquefois nous n'avons pas. Donc là, pour le coup, nous les avons. Et il faut, j'ai envie de dire, en profiter pour proposer des actions de formation qui peuvent être même longues, qui, j'ai envie même de dire, je prends le risque, mais qui peuvent être également chères, mais en tout cas qui, si elles débouchent sur une possibilité d'emploi, seront et pourront être prises en charge par les agences Pôle emploi. C'est une priorité du moment. Il y a double priorité, les travailleurs handicapés et les demandeurs d'emploi qui ont un niveau infra-bac. D'accord ? Là-dessus, je peux m'avancer en disant qu'effectivement, la formation, c'est ce qui manque et sur lequel on met le plus de nos efforts.
Et en guise de mots de la fin, Pierre Pélissier, Eric Julot, du point de vue de vos associations, est-ce que vous, en dehors donc, de tout le travail d'accompagnement que vous faites, est-ce qu'il y a aussi un travail de réflexion sur certains sujets que vous souhaitez développer
Alors, il y a des réflexions même nationales, voire internationales, hein, qui se posent autour de la question du handicap, au regard notamment de la position de la France qui, jusqu'à présent, a défendu un système de discrimination positive. On appelle discrimination positive, par exemple, le système de quotas ou de mesures spécifiques d'aide à l'insertion des personnes en situation de handicap. Or, cette position nationale va à l'encontre de certaines directives, positions européennes qui préconisent davantage d'inclusion et moins de discrimination, entre guillemets, positive. Voilà, donc ce sont des débats qui agitent quand même pas mal nos sphères pensantes et qui, pour le coup, aura certainement des impacts sur le plan opérationnel et du terrain.
Alors, pour revenir sur ces évolutions, elles sont inéluctables, nous en sommes bien convaincus. Cela dit, tout au long de cette émission, on a parlé du temps qu'il fallait pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap ne soient pas mises de côté, je dirais ça de manière très simple. Et ce que l'on craint à l'heure actuelle, c'est la précipitation. Parce que changer le regard sur le handicap, changer le comportement de la société dans son ensemble, hein, dans une société qui devient à l'heure actuelle très communautariste, disons-le tranquillement, hein, Ces communautés particulières que peuvent constituer les personnes en situation de handicap, surtout pour certains types de handicap, si effectivement on ne s'en occupe pas d'une manière là, toujours particulière, et là on parle vraiment d'accompagnement, de temps pour faire évoluer cette société vers une acceptation de tous les types de handicap, quels qu'ils soient, avec ce que cela comporte, comme enrichissement de la société aussi, ne l'oublions pas, ça ne peut pas, là aussi, se décréter. C'est comme l'inclusion, ça ne se fait pas en 6 mois, en 1 an, c'est pas une loi qui va tomber comme ça et qui va faire que la société va changer, c'est beaucoup de temps. Là aussi, on parle de formation. Alors, quand on parlait d'accompagnement, je dirais un dernier mot, c'est que l'accompagnement, c'est la formation, c'est l'accompagnement social, c'est l'accompagnement par logement. On parle des personnes en situation de handicap, mais il faut qu'elles soient mobiles, avec des conditions de logement qui sont particulières, souvent, que ce soit l'adaptabilité physique, que ce soit simplement le fait de recevoir dans une montée un couple de personnes handicapées, soit mentales, soit psychiques ou autres. On sait très bien quel type de réaction on peut avoir à l'heure actuelle. Des épiphénomènes, c'est vrai, c'est absolument pas général, mais ça existe. Donc c'est toute une évolution de la société pour cette acceptation de tous les citoyens, quels qu'ils soient, qui sont tous des citoyens de notre belle France, je dirais, quoi, tout simplement.
Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation, d'être venus
Merci.
Jusqu'à nous par cette chaude journée. Bonne continuation à vos deux associations et puis également à Pôle emploi. Mais je crois que Pôle emploi, vous ne manquez pas de travail.
Je vous le confirme.
On rappelle juste qu'on peut trouver vos associations via vos sites web, tout simplement. Donc pour ceux qui ont envie d'en savoir plus ou de vous contacter, O et Prométhée, il suffit de taper dans un moteur de recherche ou la page 38, on vous trouve très facilement. Merci messieurs et à une prochaine fois sur notre antenne. Voilà, donc on termine notre émission de ce mois d'août. Donc je rappelle que nos invités étaient Éric Julot pour l'association O et Prométhée, Pierre Pélissier de la page 38 et Mathieu Boutas du Pôle emploi de Fontaine. Merci à vous, auditrices, auditeurs, pour nous avoir suivis. Et à bientôt sur News FM pour une nouvelle émission de La Voix de l'Emploi. Salut! C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble-Alpes-Métropole.